France Culture.
France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
En 2005, notre Premier ministre a déclaré publiquement « Il faut qu'on lutte contre le VIH en aidant les toxicomanes, avec une politique de réduction des risques. »
Les homosexuels, la population clé avec laquelle on travaille, sont tellement discriminés qu'ils sont extrêmement réticents à l'idée d'aller dans une clinique publique pour demander la PrEP.
Vivre une vie d'être humain, c'est déjà un challenge. Les besoins élémentaires, le logement, le travail. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles les trans ne se soucient pas beaucoup du VIH, parce que le reste leur semble la priorité.
De quels moyens le Fonds mondial de lutte contre le sida disposera-t-il dans les années à venir? Ses donateurs sont réunis en sommet à Johannesburg pour répondre à cette question cruciale dans un contexte de baisse des aides internationales. Créé en 2002, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme soutient prioritairement les pays à forte charge épidémique et disposant de faibles capacités de financement. Il aide notamment la Malaisie à contenir l'épidémie. Comme partout, le virus y frappe davantage les plus précaires, les plus ostracisés, usagers de drogue, hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes et personnes transgenres. Pays conservateur et profondément religieux, la Malaisie fait pourtant figure de bon élève de la lutte contre le VIH. On y enregistre environ 3000 nouvelles contaminations sur un an contre plus du double en 2003. Et la prévalence du virus est globalement faible, moins de 0,3% chez les adultes de 15 à 49 ans. La Malaisie est en pleine transition, le pays se prépare à se passer totalement de l'aide du Fonds mondial. Quelles seront les conséquences? Prévention et traitement seront-ils impactés? L'approche communautaire au plus près des besoins des personnes vulnérables pourra-t-elle être préservée? Face au VIH, la Malaisie résolue malgré les conservatismes, c'est un reportage signé Tara Schlegel. Bonjour Tara.
Bonjour Aurélie.
Dans le cadre d'un voyage avec l'association AIDE qui lutte contre le VIH, vous êtes donc allée en Asie du Sud-Est, en Malaisie, qui est un pays, il faut le préciser, à majorité musulmane.
Oui, l'islam est la religion officielle de la Malaisie, pratiquée par les deux tiers de la population, 63% exactement. Mais c'est un pays d'abord multi-ethnique et multi-religieux, avec les Malais, donc musulmans majoritaires, et une forte composante chinoise, 23% de la population, ainsi qu'une composante indienne d'environ 7%. Toutes les religions donc se côtoient, islam, bouddhisme, hindouisme, christianisme, mais seule la communauté musulmane se voit appliquer la charia. On verra qu'elle réprouve notamment les relations sexuelles hors mariage ou entre personnes de même sexe. Le code pénal, lui, s'applique à tous et il est aussi très conservateur avec l'article 377. C'est un héritage de la colonisation britannique. C'est un article très actuel puisqu'en Malaisie, il a été amendé une première fois en 1989, puis aussi en 2017, l'alinéa B de cet article précise par exemple qui entretient des rapports charnels contre nature avec un homme, une femme ou un animal sera puni d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à 20 ans et passible de coups de fouet.
Merci Tara. L'invitée d'aujourd'hui est la directrice générale adjointe de Coalition Plus. Bonjour Florence Giard. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots les missions de ce réseau d'ONG?
Alors Coalition Plus, c'est une union internationale d'organisations de lutte contre le sida, présente dans 50 pays, qui agissent pour la prévention, le dépistage et l'accès au traitement du VIH.
Et vous étiez récemment en Malaisie, le reportage de Tara devrait donc vous parler. Il commence dans la capitale Kuala Lumpur.
On vient de traverser le carrefour, là on se retrouve devant une petite station-service Petronas. C'est la compagnie pétrolière de Malaisie qui apporte d'ailleurs au pays beaucoup d'argent. Et on se rend dans une clinique qui se trouve juste à côté du siège de MAC, le Malaysian AIDS Council, donc le conseil malais pour la lutte contre le VIH. Si je peux décrire un petit peu, alors on est environné comme partout à Kuala Lumpur de très hautes tours, vraiment très très hautes, de buildings de moyenne hauteur en béton un peu délabré en général. Et puis il y a des petites échoppes partout. Là, une échoppe qui vend du chai, du thé, des décorations indiennes. C'est une grosse communauté indienne, bien sûr, en Malaisie. Donc, des œillets qui ornent les devantures. Des vieux parasols aussi pour se protéger de la chaleur intense. Je regarde juste là, je pense que c'est un garage. Un tout petit garage qui doit faire 4 mètres carrés, où il y a un gars qui répare des voitures.
Nous voici dans les locaux d'une institution, la Pitti Foundation. Pitti pour Pink Triangle, comme triangle rose. C'est tout simplement la plus ancienne association de lutte contre le VIH, fondée en 1987 par une poignée d'hommes gays face au premier cas déclaré de sida, un jeune homme qui était revenu de San Francisco avec le virus. Raymond Taille dirige l'ONG. Grand, élégant dans son t-shirt noir et arc-en-ciel, il se souvient, dans un anglais impeccable, des débuts.
So, in the 1980s, especially in Kuala Lumpur, you just go from the main roads into the back lanes.
Dans les années 80, notamment à Kuala Lumpur, il suffisait de quitter les rues principales pour voir des gens se shooter partout. On les appelait les zombies vivants. Ils dormaient dans la rue avec leurs plaies ouvertes. Personne ne s'occupait d'eux.
And we know by that time HIV was always seen as a gay disease.
À l'époque, le VIH était vu comme la maladie des homosexuels. Mais en Malaisie, plus de 90% des malades s'injectaient de la drogue. Alors, bien que nous, notre association, soit centrée sur la communauté gay, on s'est dit, on ne peut pas regarder tout ça sans rien faire. Alors nos bénévoles sont donc allés dans les ruelles avec des infirmières pour les soigner. On les a amenés à l'hôpital. Parfois, quand c'était trop tard, on les accompagnait au cimetière pour leur offrir des funérailles décentes.
Actually, PT Foundation, we are the first one illegally doing the needle and syringe exchange program.
Hicham Hussein, petit homme malicieux, chemise blanche, immaculé, incarne la Pitti Foundation, qu'il a dirigée pendant 35 ans, avant de céder les rênes en 2023. Il rappelle que son ONG a été la première à lancer illégalement un programme d'échange de seringues. Bien avant que MAC, le Malaysian AIDS Council, l'association qui chapeaute aujourd'hui 38 ONG de lutte contre le VIH et répartit les aides du Fonds mondial, bien avant donc que MAC ne se lance dans la réduction des risques.
On a commencé bien avant que MAC ne s'y mette en 2005. En fait, on repousse les limites. On a toujours été fort pour faire ça. Et du coup, personne ne nous aimait. Nous avons été catalogués comme cette organisation gay, ouvertement, en public. En fait, quand j'étais président de l'association, je raconte ça pour remettre les choses en perspective. J'ai été convoqué deux fois par le département des affaires religieuses. Ils m'ont demandé, est-ce que vous êtes une ONG gay ? J'ai dit, non, on s'intéresse seulement à la santé publique. On ne demande pas aux gens s'ils sont gays, transgenres ou bisexuels. Ce n'est pas nos affaires. Mais ça, ils n'aiment pas. Parce qu'ils veulent bien nous donner de l'argent. Dire que c'est OK quand on aide les malades. Mais ils disent, assurez-vous que cette femme trans revienne dans le droit chemin. Assurez-vous que cet homme gay se marie. C'est ça leur état d'esprit, encore aujourd'hui en fait. En fait, c'est la règle ici, en Malaisie. Ils savent comment on travaille. Deux fois, on a reçu ici la visite des services secrets dans nos bureaux. Vous voyez ce que c'est, l'IRG, les renseignements généraux ? Ils ont montré leur carte. Ok, Big Brother nous observe. Mais c'est exactement ça. Ils ont épluché les classeurs, tout regardé. Et puis, ok, bye bye. Ils sont partis sans rien trouver. Parce qu'on le dit très clairement, nous ne sommes pas anti-gouvernement. On ne fait pas la promotion, comment on dit déjà, oui, de la propagande pour l'homosexualité ou les droits LGBT, ça non.
Like we tell, I tell them actually quite honestly, if
Je leur ai même dit, si des clients ici veulent apprendre la religion, c'est déjà arrivé, avec des vieilles femmes transgenres, eh bien, on les oriente vers des référents religieux. Notre salle a même servi de refuge à un groupe de jeunes catholiques gays. Ils venaient faire leur prière ici.
La Malaisie n'est donc pas à une contradiction près. Pays profondément religieux, mais qui abrite des clubs gays, dominés par la foi musulmane, mais multiculturelle. Société conservatrice, mais très bonne élève de la lutte contre le VIH. En vérité, ici, beaucoup se fait sans que ce soit dit. Et quand on demande à Hicham s'il arrive que des militants gays parlent de leur homosexualité ouvertement, il glisse amusé.
Non, ce n'est pas la peine. Ils savent bien. Sinon, c'est qu'ils sont sacrément stupides.
Cap sur le ministère de la Santé, à 25 km au sud de Kuala Lumpur, dans une ville bâtie de toutes pièces pour les autorités administratives du pays. Le quartier est immense, tout comme le bureau de Shahari Benyajima. Complet bleu, lunettes cerclées de noir, ce docteur en épidémiologie nous reçoit à la place du ministre titulaire, fraîchement nommé. Ses services nous disent qu'il ne connaît pas assez bien le dossier. Docteur Shahari, lui, est haut fonctionnaire. Il sert l'État depuis 38 ans et a combattu le VIH, d'abord en région, avant de se hisser jusqu'au ministère, où il dirige le CCM, le Country Coordinating Mechanism, autrement dit un dispositif qui coordonne tout le programme national de lutte contre le sida. Conscient du conservatisme de la société, il souligne pourtant l'engagement constant des dirigeants.
En 2005,
notre Premier ministre a déclaré publiquement « Il faut qu'on lutte contre le VIH en aidant les toxicomanes, avec une politique de réduction des risques. » Donc, en novembre 2005, nous avons lancé un programme de substitution en proposant de la méthadone aux injecteurs de drogue et ensuite un programme d'échange de seringues. Le gouvernement a financé tout cela de façon adéquate et il s'est appuyé sur les organisations communautaires. Mais on n'allait pas assez vite. Alors nous avons demandé l'aide du Fonds mondial de lutte contre le VIH. L'argent est arrivé 2 ans après la première demande, en 2011. Et aujourd'hui, il finance moins de 3% de nos besoins.
De fait, en Malaisie, c'est bien le gouvernement qui porte presque tout l'effort contre le VIH. La PrEP en est un bon exemple. Cet outil de prévention a révolutionné la lutte contre le VIH. En prenant un simple cachet, on peut éviter pratiquement 100% des contaminations, même si on adopte des pratiques sexuelles à risque. Alors malgré les tabous, politiques et religieux se sont montrés pragmatiques, affirme Dr Shahari.
Quand on a voulu lancer la PrEP dans ce pays, on a dit à notre ministère, on va le faire silencieusement, mais efficacement. Alors on a contacté quelques leaders religieux. Ils nous ont répondu, votre travail, c'est de prévenir la maladie. Les changements de comportement, c'est l'affaire de Dieu. Et le programme national accueille les personnes qui veulent utiliser la PrEP dans nos cliniques publiques, pas dans les sites gérés par les ONG communautaires. Ces gens sont les bienvenus dans les structures de l'État. Et on a environ 10 000 utilisateurs. Parce que c'est une initiative qui relève de la santé publique.
Docteur Shahari pose un gros livre sur le bureau. C'est un module de formation du département des affaires islamiques.
Ce sont les versets du Coran. C'est la sourate Al-Ma'ida. Et sur cette page, ils ont traduit la signification des versets. En substance, ça veut dire « ne pratiquez pas de discrimination envers ces gens-là, mais encouragez-les à venir se soigner ».
Collect all the hadiths
Le ministère des Affaires religieuses essaye de rassembler tous les hadiths et toutes les paroles du prophète Mohammed, qui prônent l'absence de discrimination et l'accueil.
Mais l'homosexualité est un péché, selon votre religion.
Nous, on ne s'attaque pas aux pratiques. On ne s'attaque pas à la loi. Simplement, quand tu viens dans ma clinique pour te faire soigner, je ne te vois pas comme un homosexuel. Je te vois comme un humain et on te tend la main pour t'aider.
Cette image réconfortante ne dit pas forcément tout. La PrEP n'est accessible en Malaisie que depuis 2 ans, 10 années après la France par exemple. C'est une nouvelle fois la Pity Foundation en Malaisie avec sa clinique communautaire dirigée par Hicham et Raymond qui a bousculé les mœurs. Dès 2018, ces militants distribuaient la PrEP 7 ans avant l'autorisation officielle, se rappelle Raymond.
Il y avait beaucoup de preuves scientifiques à l'étranger que la PrEP était efficace. Donc, sous l'angle de la santé, ce traitement était une évidence. Mais lever les obstacles moraux et religieux, ça, c'était un défi. Ils ont fini par se montrer pragmatiques, mais c'est surtout grâce à certains fonctionnaires du ministère de la Santé qui se sont vraiment mouillés pour faire ce qu'il fallait.
Hicham s'avance pour préciser.
C'est important aussi que je vous raconte justement ce qu'a fait Dr Anita, l'ancienne directrice du contrôle des maladies au ministère. Elle a organisé une discussion publique dans une mosquée. Croyez-le ou pas, elle voulait gagner le soutien du mufti de l'état de Selangor, c'est l'état où se trouve Kuala Lumpur. Ils ont donc organisé un atelier. Ils ont appelé des LGBT, des transgenres, vous voyez, des trans habillés en femmes dans une mosquée, des travailleurs du sexe, des hommes gays, tout ce que vous pouvez imaginer. Ils sont venus discuter de l'introduction de PrEP. Parce que si le département des affaires religieuses de Selangor avait accepté, les autres États auraient suivi. Donc, cette discussion s'est tenue, poussée par le ministère de la Santé. On y était avec Raymond. C'était très ouvert, dans une mosquée, vous imaginez, discuter des LGBT et tout ça. Bon, quoi qu'il en soit, ça s'est bien passé. Malheureusement, quand l'affaire a été ébruitée, les religieux se sont rétractés. En fait, quand vous avez les petits groupes d'islamistes de droite qui critiquent le ministère, qui disent que le gouvernement va dépenser l'argent public pour des choses immorales, blablabla, et puis les médias s'en mêlent, ils ont mis en cause le département du mufti de Selangor, alors il a pris peur et il a dit « Non, non, on n'a jamais cautionné ça, c'était très diplomatique. » Mais là, je leur tire mon chapeau. Le ministère de la Santé a quand même fait passer la loi au Parlement.
Notre défi maintenant, c'est d'élargir la PrEP à tout le pays, de la distribuer dans les 600 cliniques publiques. Mais le gouvernement n'a pas encore dit oui. En fait, le vrai problème, c'est qu'on sent bien que la PrEP marche mieux lorsque ce sont les communautés qui s'en emparent. Les homosexuels, la population clé avec laquelle on travaille, sont tellement discriminés qu'ils sont extrêmement réticents à l'idée d'aller dans une clinique publique pour demander la PrEP. Malheureusement, à part notre clinique communautaire, celle de la Pity Foundation, il n'y en a aucune sur le même modèle. Donc, on cherche à influencer le gouvernement pour qu'il autorise la PrEP dans les structures privées et qu'elle soit gratuite. Il faudrait qu'on ait au moins 100 000 personnes sous PrEP en Malaisie pour que ça ait un impact national. En avoir 10 000 en 2 ans, c'est décent, mais on est très loin du compte.
À Kajang, banlieue sud de Kuala Lumpur, les buildings ont cédé la place à des maisons un peu délabrées. Sur le sable, un petit gamin joue. Son père est en prison pour consommation de drogue, a glissé un oncle.
Il y a 3 hommes donc là, sous des grands arbres.
Mangosteen trees.
Ah, ce sont des manguiers, hein. Ils sont magnifiques. Hein. D'accord.
You can see the fruit there.
À l'ombre, donc, une poignée d'hommes, maigres dans leur jogging effiloché. Avec nous, l'association PIM, qui travaille depuis 19 ans aux côtés des toxicomanes pour les aider à se protéger du sida, à utiliser des seringues propres et donc à prendre de la méthadone pour décrocher de l'héroïne.
Okay. Donc apparemment c'est un hotspot, c'est un endroit pour les clients qui prennent les drogues, donc ils viennent ici pour rester entre eux. Voilà.
Un homme se lève d'un hamac, c'est Liseri. Il a 37 ans et commence à s'en sortir, comme il l'explique à Shah, notre traducteur.
Avant, chaque fois qu'il avait mal, il devait toujours chercher pour les drogues. Mais maintenant, il se sent mieux dans la santé. Okay, il dit, quand je bois le méthadone, je ne pense plus aux drogues. Selon lui, héroïne, on doit prendre au moins 5 fois par jour. Ça, quand il ne prend pas, il souffre, il se sent mal. Et il a désir de faire des choses qui ne sont pas bien, par exemple voler pour gagner l'argent, des choses comme ça.
Il en a besoin, il a besoin d'acheter de l'héroïne, d'accord. Exactement. Et la méthadone, quand il en prend, il est dans quel état?
La méthadone, il est dans quel état?
C'est comme les autres, je me sens normal pendant toute la journée. Je peux travailler, je peux marier, je peux aller à la mosquée pour faire les prières et je peux avoir une famille.
Est-ce qu'il a un travail?
Oui, il travaille.
C'est quoi votre travail?
Il fait les réparations pour la clim, voilà.
Ah, macam saya aktif dengan heroin.
Curi aircon.
Ah, curi. Saya memang tak ada otak nak fikir kerja, tak ada.
Avant, quand il a consommé la drogue gravement, il ne pouvait pas travailler et même il a volé les clims des clients et tout. Voilà.
Mais ok, saya dapat keyakinan diri untuk tengok anak-anak kan, dapat jaga diorang bila dapat program macam ni, happy lah.
Okay, il se sent mieux maintenant parce que maintenant il a des confiances pour rencontrer les gens, la société en général. Inch'Allah, il a des confiances. Voilà.
Il a dit Inch'Allah.
Okay. Avant, il était très maigre. Il était mince et maintenant il a pris du poids, il est bien en forme. Voilà.
Pendant que Liseri tapote ses abdos, un vieux monsieur s'avance. Lui est toujours accro et ce matin, il n'a pas eu sa dose d'héroïne.
Oh, so he's nervous. Okay, I'm saying it in English. So when he doesn't take it, he gets nervous. His heartbeat races very fast.
Ah, là, en ce moment, il a le cœur qui bat très vite et il se sent très nerveux.
Voilà. Même pour sortir, pour aller marcher, se balader, il a peur.
Et il prend de la méthadone.
La clinique, il va souvent, il est en rénovation, donc à cause de ça, lui, il doit acheter le méthadone. Dès qu'il a beli le méthadone.
Ils n'ont pas de prescription.
Ils n'ont pas de prescription.
Donc l'association n'a pas de prescription pour amener la méthadone. Et donc les usagers doivent aller l'acheter, en fait, parce qu'ils ne peuvent pas accéder à l'hôpital.
Voilà, parce que l'hôpital est loin, parce qu'il a... Oh, les barrières par les policiers, parce que chaque semaine il y a des barrières par les policiers.
Les routes,
voilà, c'est toujours les policiers, il y a des barrières, parce que cet endroit-là c'est très connu pour les drogues. Et à cause de ça, ils ont peur pour aller à la clinique, voilà. Et même les gens qui travaillent à la clinique, ils ne sont pas d'accord, mais les policiers ils font toujours, voilà.
Pour épauler ces usagers, qui sont la population clé la plus éloignée des soins, les bénévoles de PIM se relayent sur le hotspot. Souvent, ils les conduisent dans leurs locaux à 5 minutes pour des formations avec des pairs aidants d'anciens toxicomanes. Mais tout ceci est fragilisé par le départ annoncé du Fonds mondial d'ici 3 ans. Certes, le gouvernement promet de poursuivre les programmes, mais il veut déjà que PIM quitte son siège à Kajang, faute d'argent pour payer le loyer. Se désolent Afik et Sharif, les responsables de l'ONG.
Quand nos clients, les usagers, viennent ici, ils se sentent bien, parce qu'on n'est pas dans une structure du gouvernement. Ils sont à l'aise. En fait, il nous manque 1500 ringgit par mois pour payer les bureaux. Avec les fournitures, ça fait un peu plus. Mais si on pouvait déjà assurer le loyer, avec ces 1500 ringgit, ce serait bien.
Ça fait quoi, 350 euros?
C'est ici qu'on fait toute la formation et la sensibilisation. Donc, c'est très important.
Et il y a autre chose aussi. Le gouvernement nous a suggéré des noms de cliniques privées où nous installer. Mais elles sont au moins à 20 km et ça nous éloigne des usagers. En plus, les personnes qui prennent de la drogue, elles n'ont pas de moyens de transport. Alors souvent, pour l'instant, c'est nous qui les conduisons à la clinique. Et là, ce sera dur.
Léo Degnaud, coordinateur du plaidoyer international à Aide, se fait confirmer que ces problèmes sont bien liés aux difficultés du Fonds mondial.
Ça, je vais peut-être l'expliquer en français. Comme il y a eu des retards de financement de la part de plusieurs États donateurs du Fonds mondial, notamment les États-Unis, qui représentent quand même le plus gros financeur, c'est un tiers du Fonds mondial, mais aussi la France, il y a 100 millions qui ont été décalés sur l'année 2026, le Fonds mondial n'avait plus assez de trésorerie pour assurer son cycle actuel. Donc ils ont envoyé une lettre dans tous les pays en disant « Attention, priorisez uniquement les programmes qui sont les plus importants sur le terrain et il y a beaucoup de coûts non essentiels, non nécessaires, qui sont notamment les coûts de charge, ce genre de choses-là. » Et ce qui fait que du coup, sur le terrain, il y a des programmes comme ça qui doivent être arrêtés. Et c'est des choses aussi qui sont importantes quand on reconstitue des ressources du fonds, c'est de pouvoir assurer les ressources sur toute l'année. Et là, la France ne le fait plus, par exemple, aujourd'hui.
We doing Morocco. Morocco is like Indian traditional dish.
Ils cuisinent des comme des apéritifs. C'est des petits vermicelles en pâte. Ouais.
What is it made of in fact?
Curry leaf, coconut milk.
Coconut.
Yeah, coconut milk. Okay. And cumin. If we put like yeah,
c'est
cumin. Spice.
Pour gagner un peu d'argent avec la vente de ces beignets, les femmes transgenres cuisinent dans ce refuge. En ce moment, le Tea Home héberge 7 pensionnaires sans aucune ressource. Conçu d'abord pour des femmes âgées, le refuge accueille aussi des jeunes maintenant, incapables de trouver du travail depuis le Covid. Ici, extinction des feux à 21h. Pas de drogue, mais une grande famille où tout le monde coopère, sous le regard mi-bienveillant, mi-sévère de Dina.
When we come to the hospital clinic, we introduce ourselves as a NGO. That's why when we
quand on va dans les hôpitaux ou les cliniques publiques, on se présente toujours comme membre d'une ONG. Et là, ils font un effort. Mais si on y va seul, les gens vous traitent différemment. Ils voient que notre nom n'est pas le même que sur la carte d'identité, parce que sur la carte, c'est un nom d'homme. Ils commencent à nous stigmatiser et à nous jeter des regards noirs. Mais si on dit qu'on est des militants, ils deviennent gentils. En fait, ici, dans le refuge, on a 3 trans qui ont pu changer de sexe. Et elles ont réussi à avoir une carte d'identité avec la mention « femme ». Parce qu'avant 1981 et l'islamisation du pays, c'était possible de se faire opérer. Alors que maintenant, même si on réussit à programmer une chirurgie à l'étranger, ici, c'est devenu impossible de modifier son nom. La classe politique est de plus en plus influencée par l'islam venu du Moyen-Orient, du Caire, de l'université Al-Azhar ou d'Iran. Et ces courants veulent rendre la Malaisie beaucoup plus religieuse qu'autrefois. C'est pour ça qu'on a la loi islamique, alors que les autres pays n'ont qu'une loi. En Malaisie, on a la charia et la loi civile. On a deux lois.
This is different in Malaysia. Like other countries, like transparently, they can get consultation from a specialist, but.
Pour en revenir aux soins, dans d'autres pays qui sont moins transphobes, les filles ont accès à des traitements hormonaux, qui sont très bons pour nous. Mais ici, il faut demander conseil à l'ancienne génération, aux plus âgées. Or, elles ne connaissent pas forcément les effets secondaires. Ils peuvent être terribles. C'est pour ça qu'on envoie plutôt nos résidentes vers des cliniques bienveillantes avec lesquelles on collabore. Sur place, elles peuvent demander un bilan hormonal, mais ça coûte 70 ringgit.
Avec 70 ringgit, on peut manger trois fois ici, on m'a dit.
D'ailleurs, les médecins le font en cachette.
Sorry, we are working. We are doing something at the back.
Okay. We are doing our work. Excuse me. Saya, saya berasal dari Kelantan, usia 70 tahun.
Donc, elle s'appelle Mak Zai, elle vient de Kelantan, c'est au nord de Malaisie, et elle a 70 ans, et elle habite ici, parce que comme ça, elle ne donne pas de soucis aux gens, donc c'est pour ça qu'elle préfère d'être ici, loin de sa famille.
Et le fait d'être une femme transgenre, est-ce que sa famille, à un moment donné, l'a rejetée à cause de cette raison?
Apparemment, personne ne rejette pas. Donc, elle est venue ici parce que c'est elle qui veut, c'est pas parce qu'elle n'est pas acceptée et tout, parce qu'elle a ses amis ici. Donc, c'est pour ça qu'elle a choisi de venir ici. Voilà. Mes parents, ma mère, mon père, ils m'aiment, quoi. Donc, j'ai pas de problème. Presque toute ma famille, ils m'aiment.
Donc, en fait, il n'y a pas de discrimination.
Jamais.
Dans les années 70, elle était acceptée même par les profs à l'école parce qu'elle est allée dans une école religieuse, en fait. Et elle porte les habits comme les filles. Et elle n'avait pas de problème avec les profs et tout. Elle était bien acceptée.
Mais à l'époque, vous aviez quel, un nom d'homme ou un nom de femme?
Oh, donc les gens, ils ont créé un prénom d'une femme pour elle qui s'appelle Rohani. Donc ce sont les gens qui vivent autour d'elle, ça veut dire dans la campagne.
Dans son
et
quartier,
voilà.
Qu'est-ce qu'elle a fait comme travail, comme métier dans sa vie?
Copy house, ça que je... ça que je... garde.
Ok, elle a travaillé comme serveuse dans les cafés, elle a aussi, comment on dit, la personne qui s'occupe de la sécurité et aussi quelqu'un qui travaille dans les pet shops, des magasins pour les animaux qu'on garde à la maison, quoi. Voilà, elle a travaillé, trois métiers, elle a dit tout à l'heure. Elle a fait tout ça pour gagner la vie, elle n'a jamais fait de travail comme sex worker.
Bah, merci beaucoup.
Terima kasih.
Terima kasih, thank you.
Donc elle va montrer comment elle distribue les préservatifs, quoi, les capotes. Okay.
Mari kondom tadi. Nampak gambar semua dah. Dah.
Chowkit, quartier populaire au nord de Kuala Lumpur. Au pied des barres d'immeubles, les travailleuses sociales distribuent des préservatifs. Nous suivons Chik Min dans un appartement.
Donc cet endroit-là, c'est plutôt pour les transgenres qui viennent ici pour discuter aussi. Et c'est un transit aussi pour reposer un peu.
Un endroit pour se reposer.
Ok, un peu. Okay. Pourquoi elles viennent ici, à part de discuter et tout ça, si elles veulent envie de faire les tests, donc elle va faire les tests pour eux.
Dans une petite pièce, une jeune trans fait la prière. Une autre tend sa main pour un test rapide. Nous retrouvons Chik Min sur la terrasse où elle a improvisé un petit dressing.
Alors elle va me montrer des robes qu'elle aime bien. Mais celle-là, elle est très jolie.
C'est une robe de nuit.
Ah, ça c'est joli, c'est vert et rose, un peu en soie.
This is my favorite.
Ça c'est une chemise qu'elle adore pour sa routine quotidienne, comme elle dit.
It's my favorite jean.
Mais je suis étonnée que personne ne me parle de discrimination. Toutes les filles me disent que tout se passe bien. C'est vrai?
Actually, discrimination, discrimination and stigma is still have here in Malaysia.
En réalité, il y a encore beaucoup de discrimination et de stigmatisation en Malaisie. Il faut qu'on éduque la population à mieux nous connaître, en fait, petit à petit. Ça ne peut pas aller trop vite. Mais il faut qu'on leur apprenne. Dans la rue, parfois, quand les gens sont agressifs, nous, on sait aussi être agressives. On les frappe. Ça a l'air drôle comme ça, mais ça ne l'est pas. C'est la réalité. Parfois, les gens nous insultent. Ils utilisent ce genre de mots.
En malais, on appelle bapo. We call it aqua in Chinese. We call it umbuda in India.
And what does it mean? Et qu'est-ce que ça veut dire en anglais?
English is like ladyboy.
En anglais, c'est ladyboy.
Very nasty word.
C'est un mot vraiment méchant.
Good. If you want to call me,
si tu veux me parler gentiment, il faut dire
her, she,
elle,
madam, or
madame
miss.
Ou miss. And et avec la police, police, vous avez des soucis?
Police? But now the police,
non, on n'a plus de problème avec la police. Mais avant, on a eu vraiment de mauvaises expériences avec elle. Hein. Et avec les autorités religieuses aussi. C'était avant 2004.
Et vous-même, vous avez été arrêté?
Non, non, jamais. Mais j'ai des amis proches qui l'ont été. Alors ça se passe comme ça. La police nous arrête et après, elle envoie les femmes trans vers les autorités religieuses, vers un imam par exemple. Donc parfois, ils vous mettent en prison et parfois, ils vous collent aussi une amende. Ça peut aller jusqu'à 2000 ringgit de contravention, juste pour s'habiller comme une transgenre.
Et ça arrive encore.
Oui, oui, ça se produit toujours. Mais les autorités sont devenues moins sévères. Cela dit, si vous êtes arrêté par la police plus de 3 fois, vous allez direct en prison.
Maintenant ?
Oui, oui, et pour 2 ans. Je connais des trans qui ont été emprisonnés. Après leur sortie, elles nous ont raconté. Par exemple, pendant leur incarcération, certaines filles ont été placées dans le quartier des hommes. En fait, il n'y a pas de cellule spéciale pour les femmes trans, donc elles ont pu faire de mauvaises rencontres. Certaines, elles ont été violées. C'est pour ça qu'elles attrapent aussi des maladies sexuellement transmissibles, même le VIH, après être passées par la prison.
En juin dernier, au moment où nous sommes à Kuala Lumpur, un sommet Trans Summit va se tenir pendant 3 jours dans un endroit tenu secret, par peur d'une descente de la police. Anou représente les populations clés dans la délégation qui siège au conseil d'administration du Fonds mondial. Anou, elle est grande, elle est donc femme transgenre, habillée avec une robe rouge, belle, et des petites ballerines rouges. Elle a une montre dorée au poignet, des longs cheveux teints au henné. À un certain âge déjà, je pense.
Hi, my name is Anushya Karnanidhi.
Salut, je m'appelle Anou, j'ai 48 ans et je vis en Malaisie.
In Malaysia, yeah.
Est-ce que vous pourriez vous présenter comme une femme trans?
Ok,
je suis une femme trans et je suis fière de l'être. Depuis l'âge de 3 ans, je suis consciente d'être une femme. Quand j'étais petite, je voyais des hommes. Cela me rendait timide. Et puis j'étais moustillée quand je voyais des garçons, comme les acteurs de cinéma. Mais quand je suis née, j'ai su que ce n'était pas mon corps. Je me sentais comme une femme, prisonnière dans un corps d'homme. Donc après un certain temps, j'ai entamé une transition de genre. J'avais une vingtaine d'années. En Malaisie, on a des représentants de chaque religion, musulmane, hindoue, bouddhiste, chrétienne. Il y en a tellement. Mais la plus puissante, c'est la religion islamique, puisque notre pays applique à la fois la loi civile et la loi islamique, la charia. Mais ayant dit ceci, on peut aussi défier la loi. Et dans les années 2000, des trans ont gagné un procès. Elles avaient été arrêtées pendant qu'elles organisaient un mariage, c'est une de leurs activités traditionnelles, et elles ont été arrêtées pour s'être travesties en femmes. Elles se sont battues et finalement elles ont gagné. Mais toutes les trans ne peuvent pas intenter un procès. Ça demande de l'argent, du temps. Et comme vous savez, les trans, si elles ne travaillent pas, elles ne peuvent pas survivre. Donc évidemment, la plupart d'entre elles se prostituent. Et quand on est déféré devant les autorités religieuses, il faut avouer. Tant qu'on ne le fait pas, on n'est pas condamné, mais ils nous menacent. Alors certaines avouent. Après, elles payent une amende et elles sont convoquées par les autorités religieuses pour des entretiens, une fois par semaine.
Et il faut s'habiller comme un homme ?
Évidemment. C'est pour qu'elles prennent conscience des règles de la société. En fait, notre genre n'est pas reconnu légalement. C'est pour ça qu'on subit tout cela et qu'on a tous ces défis à relever dès le premier jour de notre vie. Les abus et tout ça. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles les trans ne se soucient pas beaucoup du VIH ni des maladies sexuellement transmissibles, parce que le reste leur semble la priorité. Vivre une vie d'être humain, c'est déjà un challenge. Les besoins élémentaires, l'éducation, le logement, le travail. Si on n'a pas tout ça, pourquoi penser à sa santé? Alors elles deviennent travailleuses du sexe. Même celles qui ont des diplômes, parce qu'elles ne peuvent pas avoir des postes à la hauteur de leur formation. Parfois, certaines sont convoquées pour des entretiens d'embauche, mais quand les gens voient leur carte d'identité masculine et après leur apparence, ils sont confus et les rejettent. Et puis il y a même la question des toilettes séparées, hommes-femmes, dans une entreprise. C'est toujours un problème. Et puis enfin, il y a aussi cette envie de changer de sexe. C'est très important. Elles veulent être belles, elles souhaitent se transformer. Et moi-même, comme membre de cette communauté, je ne me suis pas préoccupée du VIH avant 2006. C'est mon travail de militante qui m'a ouvert les yeux. J'ai compris que c'était simple, c'est gratuit, on se fait tester facilement, et ainsi on peut vivre une vie heureuse.
Face au VIH, la Malaisie résolue malgré les conservatismes. Un reportage de Tara Schlegel avec Annie Bro à la réalisation. Et je précise que c'est Cha, le traducteur qui a accompagné Tara, qui a composé cette chanson.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
La directrice générale adjointe de Coalition Plus, Florence Giard, est l'invitée de ce grand reportage. Vous aussi, vous êtes allée récemment en Malaisie. Vous avez constaté, comme Tara, la singularité de ce pays où l'on peut à la fois punir l'homosexualité de prison et soigner sans condamner.
Oui, exactement. Je trouve que le titre de cette série de reportages résume parfaitement en quelques mots la situation de la Malaisie. C'est quand même un pays assez modèle hein, en termes de lutte contre le sida ces 15 dernières années, avec des résultats qui sont très probants en matière de baisse des décès, de baisse du nombre de cas. Et puis, par ailleurs, il y a encore effectivement beaucoup de conservatisme et beaucoup de tabous, et tout ça, on le sait, éloigne les personnes du soin. Mais même de ce côté-là, il y a quand même des choses qui sont vraiment intéressantes et originales. On l'a entendu dans le reportage en Malaisie.
Donc en fait, on agit, mais il ne faut pas le dire.
Oui, alors on agit, mais il ne faut pas le dire. C'est le cas dans beaucoup de pays dans le monde. Hein. Ça, ce n'est vraiment pas spécifique à la Malaisie. Ce qui est spécifique là, et qui a été évoqué dans le reportage, c'est vraiment le dialogue avec les autorités religieuses et notamment les autorités musulmanes. Et ça, le travail qui est fait est assez remarquable.
Et elles font finalement preuve d'un certain pragmatisme.
Complètement. C'est-à-dire qu'il y a une vision selon laquelle la santé publique peut primer sur la religion à certains moments quand des vies humaines sont en jeu. Et ça, dans un pays qui applique la charia, c'est quand même, je pense, assez unique au monde.
Le Fonds mondial est arrivé en 2011 en Malaisie. Alors, les financements ont toujours été relativement modestes dans le pays. Là, le départ progressif est organisé jusqu'en 2028. Se passer des financements du Fonds mondial, c'est une volonté des autorités malaisiennes ou est-ce que c'est tout simplement parce que le Fonds mondial a des ressources limitées et qu'il n'y en a pas pour tout le monde ?
Oui, c'est une stratégie du Fonds mondial, hein, initialement, qui engage ce processus de transition dans les pays à revenus intermédiaires. En effet, parce que les ressources sont limitées et aujourd'hui même, elles le sont encore plus.
On va y revenir.
On va y revenir. Et c'est un processus qui est plutôt sur le papier assez sain. C'est-à-dire que le fait que les pays aient leur souveraineté en matière de définition de leur politique publique de santé, c'est plutôt une bonne nouvelle et qu'ils arrivent à se passer des financements extérieurs. Ça pose quand même un certain nombre de questions, à la fois en termes de calendrier. Il ne faut pas que ça aille trop vite, sinon tous les gains sont perdus. Là, le calendrier en Malaisie, il est bon. Je pense que, et puis les pouvoirs publics ont vraiment fait le travail en Malaisie. Les questions, elles se posent en termes de soutien aux organisations communautaires. Ça a été vraiment très très bien noté dans le reportage. Ce sont les organisations communautaires qui amènent les personnes les plus vulnérables vers le soin. Donc si elles n'ont plus le soutien nécessaire, elles ne pourront plus faire ce travail et ça va s'en ressentir. Et puis l'autre chose, c'est en termes effectivement de respect des droits. Les financements extérieurs permettent quand même, garantissent quand même un accès aux soins aux personnes vulnérables à l'épidémie, notamment aux personnes homosexuelles, aux travailleurs du sexe. Là, voilà, il faut que la société civile de Malaisie reste très mobilisée et c'est le cas pour maintenir l'accès aux soins de ces personnes.
Tara Schlegel.
Oui, Florence Giard, une question aussi sur la façon dont le gouvernement malaisien a évidemment la main sur la lutte, puisque c'est lui qui finance plus de 90% des crédits, mais en même temps, il voulait vraiment recentrer, il le fait déjà depuis un certain temps, tous les services, pour, y compris pour les populations les plus vulnérables, dans ce qu'ils appellent des cliniques publiques, caca, là-bas. Et est-ce que les populations clés, à votre connaissance, se rendent assez facilement dans ces structures publiques ? Ou est-ce que ça freine vraiment, comme nous l'ont dit certains sur le terrain, l'accès aux droits et à la santé pour ces personnes ?
Alors oui, il y a des personnes, y compris des personnes homosexuelles, qui se rendent dans ces cliniques. Ce qui fonctionne, en fait, c'est qu'il y ait une diversité de possibilités, que les personnes puissent à la fois aller dans le système public si c'est possible pour elles, notamment si leur entourage professionnel, personnel est au courant de leur situation. Mais il faut aussi qu'il puisse y avoir une réponse communautaire et des cliniques qui soient vraiment tenues par des organisations communautaires, des associations, qui permettent d'avoir un autre type d'accueil, un autre type d'écoute, notamment pour les personnes qui sont les plus en difficulté. Donc, il faut vraiment que ce travail des organisations communautaires se poursuive au-delà des financements du Fonds mondial. C'est ça qui fait que les résultats sont bons aussi en Malaisie.
Et c'est ça qui paraît très très difficile, parce que vraiment sur le moment, on avait l'impression que, à part la clinique très très connue qui est adossée à la Pitié Foundation et qui a trouvé un modèle économique qui fonctionne, aucune autre ne paraît viable pour l'instant, sans le financement du Fonds mondial.
Alors MAC, l'organisation qui fédère toutes ces associations, fait un énorme travail en termes de modèle économique et notamment beaucoup de partenariats avec le secteur privé. Pour essayer de mobiliser des fonds, ça marche plutôt bien. Ça comblera pas, évidemment, le départ du Fonds mondial. Mais il y a les grosses stratégies de levée de fonds en ce moment pour continuer à soutenir toutes les organisations qui sont membres de MAC.
Alors, continuons à parler d'argent. C'est aujourd'hui, vendredi, que les donateurs au Fonds mondial se sont réunis à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour dire combien ils sont prêts à donner pour les années à venir. Est-ce que vous avez des échos de ce sommet ?
Oui, j'en ai. Nous étions quelques collègues à regarder la diffusion de cette conférence tous ensemble il y a quelques minutes. C'est pas fini, la conférence va se terminer dans peu de temps. Les nouvelles ne sont pas très bonnes, je vous le cache pas. On est aujourd'hui là, au moment où je vous parle, autour de 10 milliards. Et le Fonds mondial estimait à 12 milliards le seuil minimum qui permet de maintenir l'accès au traitement, uniquement l'accès au traitement, dans le monde.
C'est-à-dire qu'ils espéraient au départ, initialement, quand même 18 milliards. Voilà. Hein, voilà. Donc 12, c'est déjà
18
très en
milliards,
dessous, et 10, c'est encore beaucoup moins.
Qui est déjà un objectif modeste par rapport aux besoins. Et en dessous de 12, ça posait une vraie question d'accès au traitement. Là, on est à 10, peut-être que ça va s'améliorer dans les semaines qui viennent. Mais c'est pas bon. Et puis surtout, la France n'a pas annoncé de contribution. Et ça, c'est absolument historique.
Alors ça, c'est qu'est-ce qui l'explique ? Bon, on connaît la situation budgétaire de la France. Donc on attend en fait des annonces françaises ou ça veut dire que...
Alors oui, on espère qu'il y aura quand même une annonce. Le fait qu'il n'y ait rien eu d'annoncé là, ça nous rend pas très optimistes. Mais surtout, cette conférence-là, c'est le moment où les pays s'engagent. Le fait que la France ne s'engage pas alors que le président de la République a quand même été un vrai leader en matière de santé mondiale sur ses deux quinquennats, et notamment sur une précédente conférence de reconstitution qui avait eu lieu à Lyon, là, c'est ahurissant. C'est un vrai choix, c'est un très mauvais signal, et c'est un vrai choix qui est fait là aujourd'hui, et sur lequel on espère que le président de la République va revenir, parce que c'est la France deuxième contributeur au Fonds mondial, 1,5 milliard sur le précédent cycle du Fonds mondial. S'il y a rien ou s'il y a très peu, ça aura des conséquences majeures sur le Fonds mondial et donc sur la vie des gens.
Mais Florence Giard, peut-on imaginer que la France ne contribue pas ? C'est même pas possible. Enfin, je veux dire, là, on ne sait pas combien on va mettre sur la table, mais c'est pas possible que la France ne contribue pas.
Non, je ne peux pas l'imaginer. Ça, c'est certain. On ne peut pas l'imaginer. Mais on craint une baisse et donc on espère vraiment qu'il va y avoir une réaction. Les conséquences, en fait, de la baisse de l'aide publique dans le monde, elles sont déjà là. On les voit déjà arriver. Et si on se projette dans les années à venir, ça fait froid dans le dos. Donc, il ne s'agit pas de dire oui, on va mettre un petit peu au Fonds mondial. Il faut que la contribution les principaux pays du G7, elles soient au rendez-vous. C'est maintenant que ça se passe.
Aux États-Unis, depuis le retour au pouvoir de Donald Trump en janvier, il y a eu des coupes budgétaires drastiques dans l'aide étrangère américaine. Est-ce que là, il y a eu des annonces américaines pour le Fonds mondial ?
Écoutez, oui. Les États-Unis ont annoncé, donc il y a quelques minutes, 4,6 milliards. Donc c'est moins que la dernière fois, mais enfin, c'est quand même très, très significatif. Il y a plusieurs raisons, hein. Il y a probablement des intérêts américains, c'est certain, mais il y a aussi un engagement sur cette cause-là de la lutte contre le sida à ce moment-là. On est à un tournant, c'est-à-dire que les financements s'écroulent, mais on n'a jamais eu autant les moyens de mettre fin à l'épidémie. Il y a des révolutions thérapeutiques en ce moment qui font que c'est absolument décisif aujourd'hui. Donc ça paraît absolument aberrant de ne pas s'engager vraiment tout de suite.
Alors justement, là, il y a quelques jours, dans le cadre d'un partenariat avec le Fonds mondial, les États-Unis ont annoncé la livraison de première dose de lenacapavir injectable à la Zambie et à l'Eswatini, deux pays pauvres d'Afrique australe. Ce nouveau traitement préventif contre le VIH représente un immense progrès par rapport à d'autres traitements parce qu'il ne nécessite que deux injections par an. C'est effectivement quelque chose qui peut énormément aider.
Oui, c'est possiblement une révolution qui peut vraiment mettre fin à l'épidémie. La PrEP, c'est-à-dire ce comprimé qu'on prend chaque jour pour éviter de s'infecter, existe depuis plusieurs années, mais il ne permet pas de couvrir l'ensemble des besoins. Donc ce lenacapavir avec deux injections par an, oui, là c'est quelque chose qui peut vraiment permettre un vrai recul de l'épidémie. On parle même d'une autre forme de PrEP avec un comprimé par mois dans les années qui viennent. Donc en fait, ce n'est pas un outil qui sera magique, mais tous ces outils-là qui peuvent permettre de protéger toutes les personnes qui prennent des risques dans le monde, tout ça, oui, peut permettre de mettre fin à l'épidémie. Donc il y a un tournant là aujourd'hui qui est révolutionnaire.
Et alors, tous ces traitements, parce que donc, il y a des innovations, il y a des outils qui existent pour la prévention, des traitements, etc. Est-ce qu'ils coûtent très cher?
Alors, pour le lenacapavir, en l'occurrence, il coûtait très cher au départ. Et là, il y a une négociation avec le laboratoire et le Fonds mondial. On pense que le lenacapavir, enfin, on est même sûr, coûtera $40. Il est possible qu'il soit vraiment massivement utilisé. Il sera produit en générique à partir de 2027. Le Fonds mondial s'est engagé à mettre 2 millions de personnes sous lenacapavir. Donc ce sont vraiment des objectifs qui sont atteignables dans les conditions qu'on a aujourd'hui.
Alors, il y a eu au mois d'octobre la 20e conférence européenne sur le sida. Les organisateurs ont plaidé à cette occasion pour que la pression soit maintenue au niveau mondial pour combattre le VIH. Est-ce que l'Europe pourrait jouer un rôle moteur?
Alors écoutez, l'Europe n'a pas non plus annoncé de contribution à cette conférence-là tout à l'heure, la France reporté son annonce. Donc, je ne sais pas si le signal est très bon, j'ai pas l'impression. Mais oui, bien sûr, l'Europe a un rôle à jouer dans la coopération en santé, c'est certain. Et c'est le moment pour les grands pays d'être au rendez-vous de ces évolutions.
Là, aujourd'hui, il y a eu des annonces fortes. Quels sont les pays là, les plus engagés, à part les États-Unis?
Écoutez, à part l'Espagne, qui n'est pas un très très gros contributeur, mais qui a quand même augmenté sa contribution, les autres pays, l'Allemagne, l'Angleterre, ont réduit leur contribution de 15-20% à peu près. Voilà, on est quand même sur une conférence de reconstitution là qui est vraiment en dessous des objectifs qu'on imaginait. On espère que ça va se redresser dans les semaines qui viennent.
Avec peut-être aussi des espoirs du côté du secteur privé.
Oui, le secteur privé a beaucoup contribué. Oui, vraiment.
Fondation Gates.
La Fondation Gates.
Et les gros laboratoires.
GSK. D'autres fondations, des laboratoires, des entreprises. Donc le secteur privé est plutôt au rendez-vous de cette conférence. Ce sont vraiment les grands États du G7.
Européens.
Oui. Même les pays récipiendaires ont contribué. Ouais.
J'ai vu que l'Ouganda avait contribué.
L'Ouganda, l'Éthiopie, le Maroc, tous ces pays ont contribué et la France doit pouvoir le faire.
On l'attend. Donc, merci Florence Giard. Face au VIH, la Malaisie résolue malgré les conservatismes. C'était un grand reportage de Tara Schlegel avec Annie Brault à la réalisation. À la technique, Anthony Thomasson. Documentation, Christine Anzano et Véronique Le Faller. Vous retrouverez cette émission de la rédaction sur l'appli Radio France et sur franceculture.fr.